Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on s'intéresse ce matin à la biodiversité. Quel plus joli cadeau pour Noël! Il y a quelques semaines, s'est tenue en Corse, à Aghione, une fête de la biodiversité, Festa della Biodiversità. On en écoute ce matin quelques éclats. Francesca Desideri, Tinta Marcon, Maurice Chaudière.
Vous êtes très entourée, Francesca Desideri.
Oui, c'est vrai, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de succès, c'est vrai.
Vous avez préparé la soupe aux herbes et tout le monde, mais absolument tout le monde, s'est jeté dessus d'abord et se jette sur les herbes que vous avez disposées sur la table pour montrer tout ce que vous aviez mis.
D'abord, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés. Donc j'ai exposé mes herbes avec les noms, le nom corse et le nom français. Et puis après, j'ai confectionné la soupe. Donc je crois qu'elle a eu beaucoup de succès aussi.
Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas seulement la soupe. C'est aussi la confection, la façon de trouver les herbes. Je vois que vous êtes vraiment entourée de questions. C'est vrai que ça intéresse les gens, les femmes aussi, les hommes.
Oui, c'est vrai. Mais bon, moi, si vous voulez, le savoir de ces herbes, je l'ai depuis... c'est mes parents qui m'ont transmis cette connaissance. Et mon père était berger, donc moi j'étais tout le temps derrière lui, derrière le troupeau. Je faisais les transhumances, tout ça. Donc à chaque fois, à chaque voyage, il m'expliquait les herbes. D'abord, il a commencé à m'apprendre les herbes toxiques, surtout, parce qu'elles sont dangereuses. Et puis après, donc, avec ma mère aussi, lorsque j'allais dans les champs ramasser les herbes, il ne fallait pas se tromper déjà.
On commence par apprendre ce qu'il ne faut pas apprendre.
Voilà, exactement. On commence toujours par les plantes toxiques et après, tout ce qui est bon. Quoi.
Et tout ce qui est bon, c'est bon au goût, bon pour la santé?
C'est bon pour au goût, et puis c'est bon pour la santé aussi. Parce que chaque plante a une vertu, certainement. Moi, je ne connais pas toutes, je ne suis pas une scientifique, mais je sais que toutes, elles sont bénéfiques. Et elles arrivent toujours au bon moment. Quoi. Il y en a certaines qui arrivent au début de l'hiver, il y en a d'autres, c'est au printemps. Donc je crois que la nature est bien faite et que toutes ces plantes, elles arrivent au bon moment. C'est-à-dire quand le corps a besoin d'un apport de certaines propriétés, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas exactement la teneur en vitamines, par exemple.
Non, mais vous savez que ça fait du bien à telle ou telle chose.
Voilà, exactement.
Par exemple.
Je ne sais pas, il y en a certaines, c'est pour la circulation du sang, d'autres, elles sont dépuratives, donc c'est pour nettoyer le sang, par exemple à l'entrée du printemps. Il y en a beaucoup qui arrivent justement avant le printemps, et donc c'est des nettoyages quoi, du corps humain. Quoi.
Est-ce qu'il y en a toute l'année?
Pratiquement, sauf l'été quand vraiment c'est sec. Mais à ce moment-là, des fois, on peut aller en montagne parce qu'il y a certaines plantes, on les trouve en plaine maintenant. Ça commence maintenant. En montagne, elles vont commencer plus tard, mais on les a plus tardivement après, même l'été, des fois. Des endroits humides, des trucs comme ça.
Et est-ce qu'il y a des règles aussi pour les cueillir ?
La règle, oui, parce que normalement, la plante, par exemple, si vous la en fleur, il ne faut pas la ramasser. Parce qu'elle doit servir déjà pour la reproduction. Et deuxièmement, à partir du moment où elle fleurit, je crois que la plante donne toute sa vertu, elle le donne à sa fleur. Et donc, si vous voulez, pour nous, elle ne nous apporte plus rien. Elle a perdu sa vertu.
Beaucoup des personnes qui ont discuté avec vous voulaient repasser vous voir et aller avec vous apprendre à reconnaître les plantes?
Ben, je crois que de nos jours, je crois qu'il n'y a plus tellement de personnes qui connaissent vraiment toute cette variété de fleurs, d'herbes. Donc, je pense qu'ils veulent se replonger. Et justement, il y a un intérêt général. J'ai remarqué aujourd'hui, surtout, beaucoup de jeunes aussi. J'ai été vraiment épatée, quoi.
Ça m'a fait plaisir. Ouais. Vous êtes d'accord, en fait?
Ah oui, moi, tout à fait, oui. Moi, d'ailleurs, j'ai un petit-neveu que je garde le mercredi et puis souvent, des fois, le week-end. J'ai commencé depuis 2 ans à lui apprendre déjà, à lui transmettre tout ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, lui, il s'intéresse. Alors, je lui apprends le nom corse, à le prononcer bien comme il faut. Je lui apprends les odeurs, à identifier la plante avec les odeurs. Et bon, c'est comme ça qu'on transmet vraiment. Il faut commencer vraiment très jeune, je pense.
C'est du plaisir à enseigner, ça ?
Tout à fait, tout à fait. Là, je m'éclate, vraiment, je me régale.
Vous pouvez nous dire quelques-unes des herbes qui sont là ?
Oui, bien sûr. Là, vous avez les orties. Je vous donne le nom en français.
Les deux ?
Les deux. Alors, l'ortie s'appelle Abunchig, là, chez nous. Moi, je vais vous donner le nom en corse, mais de ma région. Ça, c'est la Rechaga Bruna, c'est le plantain lancéolé. Ça, c'est l'Aquilée de Ligurie, c'est l'arbasante. Elle a plein de vertus, celle-là. Alors dans les soupes, il faut en mettre très peu, parce que c'est une plante quand même qui est très puissante.
Alors en fait, il y a savoir reconnaître les plantes, mais ensuite, il faut savoir les doser.
Voilà, exactement, il faut savoir doser aussi. Parce qu'il y en a certaines, on peut les mettre à foison, et d'autres, il faut quand même en mettre modérément. Vous avez la chicorée sauvage. On l'appelle la chicorée en Corse aussi. Les blettes sauvages, Eyedule. Alors celle-là, moi le nom corse me plaît beaucoup. Parce que c'est la pimprenelle. Et nous ici, surtout dans ma région, on l'appelle la banenoge, qui veut dire pain et noix. Parce que lorsque vous la mangez comme ça crue, parce qu'on peut la manger en salade aussi, on la met dans les soupes, elle a un goût de pain et de noix. Et c'est vrai, c'est extraordinaire.
Et vous ne mettez que des herbes ?
Non, après je mets des pommes de terre, des haricots, parce que les soupes, si vous voulez, il fallait qu'elles tiennent un peu au corps. Alors dedans, il y a un peu de lard. J'ai mis de la pancette, je crois que c'est tout.
Et ces gros cristaux blancs ?
Alors ça, c'est du sel qui vient de Porto Vecchio. C'est de la fleur de sel, mais qui se fait pratiquement tout seul, le sel. Et ce sont des gros cristaux que j'ai choisis. J'ai salé ma soupe avec le sel de Porto Vecchio. Alors les marais salants de Porto Vecchio sont fermés depuis quelques années. J'ai réussi à avoir quelques sacs. J'ai un peu triché, on va dire. Voilà. When I look up at the stars as I walk in the night down the street by my house, it feels good. When I look up at the clouds as they move through the night with the wind as I walk down the street. The light from the moon is afraid of the ground, so I step on the shadows of my own feet.
Tintamarcon.
Après la cueillette de champignons, je me suis dit, je vais faire goûter des girolles ainsi que des huîtres sauvages, puisqu'aujourd'hui, c'est dimanche, on ne peut pas acheter d'huîtres. Et j'étais dans l'étang de Diana, prendre ces huîtres sauvages. Puis alors, regardez-moi ça, ces huîtres. Sentez-moi ça.
Magnifique.
Vous les aimez,
on adore.
Ah, ben voilà, ça c'est... C'est un plaisir pour moi. Eh bien, je vais vous...
Mais Tintin, vous sortez comme si vous alliez faire les courses. Vous allez aux champignons, vous ramenez une caisse de champignons.
Exactement.
Vous partez aux huîtres, vous ramenez une caisse d'huîtres.
Et parce que tout le monde dit, on ne trouve pas de champignons. Ils en trouvent une dizaine, une petite poignée. Eh bien, moi, je me suis dit, ça me plie d'un coup. J'ai quitté tout le monde là-bas. Puis j'ai été juste à la sortie d'Aguillon. Et paf, et j'ai trouvé ça. Et justement, il y avait même des sangliers en train de les manger. Ah, j'ai dit, laissez-moi ma part. Et puis ensuite, bon, j'en avais assez et je suis allé jusqu'à l'étang. Et je me suis dit, peut-être que l'étang ne sera pas trop en colère parce que la dernière fois, je n'ai pas pu en ramasser. Et là, voilà, j'ai fait une belle cueillette. Ça nous suffira pour ce soir. Et j'ai mis une bonne bouteille de vin blanc et on va déguster ça. Vous allez voir, on va se régaler.
Vous savez tout faire, Tintin, avec la nature.
Ah oui, moi je me régale. La nature, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est très important. Moi, je ne peux pas rester longtemps sans aller à la montagne. Un coup, c'est la rivière. Et ici, on est bien situé. Oui. On est à une demi-heure de la mer, des étangs, étang d'Urbine, étang de Diane. Et on est à une heure d'une station de ski. Alors, vous voyez un peu.
Tout ça vous vient ?
Mais je ne sais pas, c'est comme ça. Bon, j'étais habitué comme ça. Pourtant, mon père n'était pas tellement pêcheur, mais autrefois, à la pêche, ils allaient, vous savez, avec les fusils. Hein. Ils n'allaient pas. Et puis, non, moi, j'aime bien aller à la pêche, à la truite, puis à la pêche à la mer aussi, avec mes filets aussi. Hein. On n'a pas trop le droit, mais on fait le droit, vous savez, on le prend.
Vous avez appris tout seul ?
Tout seul, parce que, bon, je vous ai dit, j'ai vécu quand même 22 ans au centre pénitentiaire de Casabianca. Là-bas, sur la plage, j'avais une cabane qui était bien intégrée dans le maquis. Bon, j'ai eu l'autorisation de mon directeur à l'époque. Bon, et cette cabane m'a vécu quand même 20 ans, quoi. Et puis, j'avais mon bateau, mes filets, et puis le matin... Le soir, j'allais tendre mes filets, et puis le matin, j'allais avec ma petite finette lever les filets. Et je prenais de belles pièces. J'ai pris la plus grosse raie, 26 kilos, elle faisait. Et j'ai pris des bonites, des ombrines, de quoi faire une bonne bouillabaisse aussi.
Voilà. Les plantes aussi, vous les connaissez bien?
J'en connais pas mal, oui. Eh bien, d'ailleurs, vous l'avez goûté, ma soupe d'hier soir, elle était fabuleuse. Fabuleuse.
La soupe aux herbes,
et puis bien sûr, complétée par ce que j'ai dans mon jardin aussi. Les poireaux, j'étais chercher aussi une plante que vous ne connaissez pas. C'est le cousin germain du cresson. On appelle ça oulaono. Et ça donne un peu de piment à la soupe aussi, vous voyez. À la tarida, le fenouil, des herbes qu'on trouve, des herbes du maquis, si on veut dire quoi.
Mais comment on peut apprendre tout ça tout seul, Tintin ?
Lorsqu'on vit dans la nature, comme ça, à la campagne, on est obligé d'apprendre. Ah, c'est pas quelqu'un qui vit à Paris ou dans les régions parisiennes qui peut apprendre ça. Mais j'ai vu aussi les vieux, et puis voilà. Ah, tiens, le rouge-gorge arrive. Les vieux nous ont appris à faire ça, et voilà quoi. Ah, c'est une bonne culture, ça.
Les oiseaux aussi, vous les connaissez?
Ah, les oiseaux aussi. Ah.
C'est lequel, ça, que vous faites?
Celui-là, c'est le rouge-gorge. Il est loin. Ah, il arrive. Ah, c'est un peu tard, maintenant ils sont couchés. Ils sont couchés maintenant.
Le rossignol, vous savez le faire ?
Et le rossignol aussi.
On dirait que vous avez toujours l'œil aux aguets et les oreilles.
Ah, c'est fabuleux, ça, oui. Oui, voilà. Vous appelez les oiseaux, ils viennent. Ils viennent vous tenir compagnie.
Vous aimez surtout ce qui est sauvage, Tintin ?
Oui. J'aime tout ce qui est sauvage, tout ce que cette terre peut nous apporter. Tout ce que cette terre peut nous apporter. Ça, c'est une chance inouïe, malheureusement, oui. Avec tous ces traitements qu'ils font, là, on est en train de détruire notre sol. C'est ça qui est le plus triste.
Vous le voyez, ça ?
Ah oui. Oui. On le voit. Il y a de moins en moins d'insectes. D'ailleurs, mon jardin en sait quelque chose, parce qu'il y a de moins en moins d'insectes pollinisateurs. Et donc, si ça ne pollinise pas, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de vie. Hein. Et voilà. Et moi, j'ai vu cette année, alors, je n'avais pas vu une abeille sur mes arbres, là, que ce soit les pêchers, les cerisiers. Je n'ai pas eu les récoltes que j'ai d'habitude. Et ça se voit d'année en année.
Et si vous montez dans la montagne, c'est mieux ?
Dans la montagne, c'est quand même mieux. Dans la montagne... moi je me régale lorsque je mets dans la montagne. J'accompagne mes hôtes des fois en randonnée. Et bien là, c'est un régal de leur faire apprendre tout ce qu'il y a, tout ce que cette nature peut nous apporter, peut nous donner. C'est pour ça qu'il faut chercher de la protéger.
Elle est généreuse, la nature ici, la terre.
Oui, oui. Très généreuse, parce que bon, qu'est-ce que vous voulez, bon, c'est une île, on a le soleil, on a le beau temps, qu'est-ce que vous voulez, tout est beau. Tout est beau. Regardez ça, des beaux champignons, des girolles, des huîtres. Eh bien, ce soir, on va se régaler. Sabine nous fera une belle tourte avec ses champignons, ils sont trop frais, ils parlent encore, vous voyez, ils sont encore vivants. L'antisque millénaire. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça comme il tombe de tous les côtés. Là. Regardez, il est énorme. Il doit faire au moins 60 cm de diamètre.
Incroyable.
Hein? Hein, Maurice?
Ah oui, j'ai jamais vu un truc pareil. Hein?
Il est de toute beauté. Eh bien oui, 60 quoi.
Et puis il n'a pas de bois mort, hein. C'est...
Il est bien soigné, regardez,
oui, ça. Oui,
il n'y a pas de bois mort, il est très très bien soigné. Alors là, c'est, regarde comme ses yeux. Hein.
Ouais.
J'ai jamais vu un arbre comme ça, regardez-moi ça, comme il tombe, on dirait un parasol.
C'est vrai, que ils sont petits,
et regardez ces deux, ça c'est une verrue,
mamelles,
non?
Il a des mamelles comme les oliviers.
Hein, regardez ça.
Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, c'est une prolée.
Comme le chêne-liège, Maurice.
Et les oliviers aussi font ça, hein, puisqu'on les multiplie.
Ah oui,
en éclatant ça, avec un petit rejet, on le plante. Oui. Ça a un nom d'ailleurs, je ne sais plus, ça va m'en venir.
Mais le chêne vert, on fait d'ailleurs des paniers à fruits, quoi.
Extraordinaire.
Moi, je vous en montrer à la maison.
S'il pouvait parler, il nous en dirait des choses.
Il a quel âge cet arbre, Tintin?
D'après les scientifiques, il aurait 1250 ans.
Oh là là.
1250 ans.
Ah, et j'ai entendu un oiseau qui arrive.
Ah, puis les oiseaux, ils se régalent ici. Hein.
Appelle-le, cousin, appelle-le.
Ah, on va appeler les jets, peut-être.
Oh là là, chez moi, ils viennent manger les kakis. Là, je...
C'est un art, ils vont venir. Ah non, ils sont pas là.
Mais comment tu fais?
C'est tout. Maurice. Non, mais moi j'aime bien imiter, que ce soit les perdreaux. Ah ben, il n'y a pas tellement longtemps, c'était la fête de l'arbre, mais j'allais récupérer une amie un peu plus loin, et il y avait 5 marcassins juste là en dessous, à 10 mètres là. Et pour appeler par exemple les perdreaux. Eh bien, bravo Maurice.
Ah, moi aussi je connais les
bêtes. Ah, c'est-à-dire qu'on a passé dans les mêmes endroits, ah, oui, les perdreaux, il y en avait. Hein.
Et les pigeons, je connais, et les tourterelles, je connais, la tourterelle sauvage et les autres.
Tu as trouvé un maître, cousin, là. Hein. Tu as trouvé un maître.
Ah oui.
Ça, c'est la tourterelle des bois. Et le pigeon, il fait... Voilà. On peut communiquer tous les deux.
Ah, le chat alors?
Ah non, ça je sais pas. Oh, incroyable.
Alors, on s'amuse bien avec cette belle journée ensoleillée.
Ah oui.
Alors que la météo nous avait promis de la pluie.
Ben oui.
Mais il vaut mieux comme ça.
Ah oui.
Pour vous qui êtes de passage.
Alors,
chez nous.
Tu sais, un usage du lentisque, c'est mon père ça.
Ah.
Quand il tuait la perdrix, il lui mettait des grains de lentisque dans le ventre avant de la cuire.
Oui.
Ça, c'est un parfum assez spécial. Hein.
Ah oui. C'est un parfum très fort d'ailleurs.
Oui, oui. Il ne faut pas mettre beaucoup.
Il n'a pas de fruits celui-là. Mais je peux vous en trouver.
Non. Ah, peut-être c'est un mâle.
Ah.
S'il n'a pas de grappe.
Ah, non, il n'y a pas de grappe du tout.
C'est peut-être pour ça qu'il vit si longtemps, si je ne fatigue pas.
Un peu à l'extérieur pour voir, mais ça m'étonnerait.
Mais je crois
non,
que c'est
on n'en voit pas à l'intérieur, donc il ne doit pas y en avoir
non.
À l'extérieur non plus. Non.
C'est un mâle.
Ah, c'est un mâle, voilà. Alors il faut qu'on trouve la femelle.
Ah oui.
Oui. La dame voudrait reconstruire cette ruine qui a aussi tout un passé. Je vais essayer de voir si elle est là.
Vous
êtes de seconde là, vous restez là.
On est en bonne compagnie là, on bouge pas.
En plus, il y a un figuier, c'est peut-être un figuier mâle ça aussi. Ah, mais c'est l'apologie des mâles ici. Olivier, non, c'est Olivier.
Il y a des petites figues.
Il doit être mâle et femelle. Mais ça, c'est des figuiers mâles, ça, je crois. Hein.
On s'assied, Maurice ?
Oui.
Ici, par exemple, là, sur les pierres.
Ah, ben voilà, il y a des belles pierres là pour ce soir.
Alors là, on est vraiment dans un coin de nature, si tant est que cette chose existe encore, Maurice. Vous dites que l'homme a passé son temps à la pourchasser, la nature.
Oui, c'est ça. C'est sa façon d'être. Il est à la fois nature, mais si on l'ampute de sa culture, il est sauvage. Et ça, il ne peut pas l'admettre, il ne peut pas y croire. Donc, il faut qu'il s'exprime. Mais il s'exprime d'une façon assez terrible. C'est en perpétuant le massacre de l'autre aspect de sa personne, puisqu'il est nature et culture. On ne peut pas les séparer. À notre époque, un homme, il est toujours les deux. Mais toute la société semble avoir fondé un pouvoir sur la culture. Et ce pouvoir s'exerce aux dépens de la nature. C'est ça qui est catastrophique.
De quelle manière ?
Eh bien, ne serait-ce que par l'agriculture. C'est-à-dire que c'est une prospection de la nature sauvage pour la transformer en occasion, en manière de production. Ce qui prime dans nos comportements, c'est la production. Ce n'est pas le respect de l'intégralité de la nature. De nos jours, on dirait de l'écologie. C'est le respect de ce qui peut, soi-disant, nourrir l'humanité. Or, ce n'est pas vrai. C'est nourrir un certain pouvoir de puissance, c'est-à-dire l'accumulation de l'équivalent de la puissance virile, je m'excuse, des spermatozoïdes. C'est la bourse. Hein, on a des bourses pleines de semences. On a remplacé les semences par les picaillons. Et d'autres, autrefois, on disait bien la bourse ou la vie, mais la bourse, c'était une poche. Mais cette poche faite avec les testicules du taureau ou du bouc. C'est bien ça, la bourse, c'est toujours ça, la bourse. Et donc, tu vois un peu le transfert de cette idée de puissance virile, pas féminine, virile, qui est fondée sur la multiplicité des semences viriles. Et avec ça, on a transféré ce comportement, cette observation, à cette puissance, à la puissance économique. C'est-à-dire qu'on va confier à l'objet le pouvoir, par la multiplication de l'objet, de faire du fric, de remplir la bourse. Mais seulement c'est la bourse de l'État, à ce moment-là, ou d'autre chose. Et c'est une sorte de transfert fabuleux, mais parfaitement toxique, du passage du vivant au matériel.
C'est-à-dire que c'est plus le vivant qui se reproduit et qui se multiplie et prolifère, c'est les artefacts. Ce sont les artefacts.
C'est ça. Mais là, on a tout mis le paquet sur justement l'outil de multiplication. Si tu veux, une entreprise actuellement qui n'est pas en mesure de multiplier, elle est tout de suite rachetée par une autre qui a investi davantage dans la machine à multiplier. Et elle bouffe l'autre, comme un gros poisson qui en bouffe un autre. Et donc, on voit bien que le talent de notre société productiviste, c'est la recherche de l'outil de reproduction.
C'est le talent de notre société, mais c'était déjà un peu là, en germe, depuis très longtemps.
Depuis très longtemps. Et c'est justement, moi je dis, ce qui fait l'homme par rapport à la bête, c'est l'art à la fois d'observer, mais de tirer parti de l'observation, au point de simuler la qualité qu'il convoite. Il regarde une chose, il est capable de la copier.
Par exemple ?
Ah ben, dès la préhistoire, une pointe de flèche, c'est presque le simulacre de certains papillons de nuit, ça ressemble à ça, c'est triangulaire comme ça. Donc il a sans arrêt une sorte de simulacre du vivant dans la création. Mais dès l'instant qu'il est capable du simulacre, il est capable de multiplier le simulacre. S'il sait le faire une fois, il sait le faire deux fois. Et donc c'est le processus de multiplication qui est prôné par notre époque et qui aboutit à l'inflation. Tu as tellement multiplié que tu n'as plus d'intérêt à la chose, alors que l'original était intéressant.
Et en même temps, il y a un intérêt très fort, il y a même un amour très fort, une fascination pour tous ces,
eh ben, on peut pas,
tous ces objets, j'ose pas dire objets justement, de la nature.
Eh ben, parce que justement, nous sommes en permanence, depuis la préhistoire, nous sommes nature. Nous sommes là parce qu'on a eu des ancêtres. Et donc on a, bon gré mal gré, une sorte de respect ou d'intérêt pour cette bête qui nous porte. Et donc cette bête, elle est faite de qualité. Donc on va chercher la qualité dans la singularité. On en a besoin. Mais dès qu'on l'a trouvée, on a ce vice qui est particulier à l'homme, que n'ont pas les bêtes, c'est le multiple. Et moi, c'est ce qui m'affole, de voir à quel point on a le culte du multiple. Le multiple, ça fait du fric. Et ça fait le problème actuel de notre société. L'accumulation du fric qui peut mourir dans une bourse s'il n'est pas réinvesti dans du vivant. Si c'est l'accumulation du pouvoir pour le pouvoir, non pas pour la vie, mais pour le pouvoir.
Mais alors justement, parce que si on reste sur cette idée de bourse, comment se fait-il à ce moment-là, s'il y a une telle volonté d'accumulation, qu'on se retrouve à créer des arbres fruitiers dont les fruits ne donnent plus de pépins, par exemple, plus de noyaux? Comment se fait-il qu'on en soit à créer des semences stériles? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on en soit à empêcher, justement, ce processus de reproduction?
C'est un problème d'éducation. On nous a éduqués au moindre effort pour avoir le maximum de profit. Donc, tu auras le maximum de profit d'une orange si tu n'as pas à cracher les pépins. Si on pouvait même lui enlever la peau et n'avoir que le jus, alors d'ailleurs on le fait, puisqu'on met du jus en boîte. Donc on a éliminé les pépins et la peau, on n'a plus que le jus. Manque de peau, ce jus, il n'a pas le goût d'une orange que tu ramasses. Voilà, donc il y a toujours cette inflation du goût, de qualité, entre le prototype et le stéréotype. On y revient toujours. Alors moi je préfère cueillir les fruits sur l'arbre, déjà. Plutôt que d'aller les acheter au supermarché, je préfère les cueillir. Et en plus, si je peux les cueillir à partir d'un arbre sauvage, qui était celui de la préhistoire, mais que j'ai greffé, donc j'ai consenti à la culture. La greffe, c'est la culture. Et je le greffe et je vais avoir des fruits qui me conviennent. Et encore, je choisis parmi ces fruits. Je ne vais pas multiplier une variété fragile qui va être parasitée, etc. Donc je fais une sélection des variétés résistantes. Donc je m'approche de l'origine, si tu veux. De l'origine de cette intégration de la qualité dans le milieu. Voilà, je suis toujours dans cette recherche-là. Mais cet instinct, ce n'est pas intelligent du tout. Hein. Ce n'est pas une volonté non plus. C'est très bizarre. Pourquoi j'ai ce goût? Tu vois, on est ici, ben là, sous tes pieds, il y a des choses qui se mangent. Et ça m'intéresse. Et ma soupe tous les jours, actuellement, c'est ça. Elle est pire que toutes celles que tu as mangées hier. Il y a plein de trucs.
Soupe aux herbes?
Oui. Et oui, il y a des. Et en plus, depuis que j'ai quitté l'hôpital et tout ça, à la suite de mon accident, le fait de revenir à mon milieu et de manger surtout ce qui est sauvage, eh bien, je me porte mieux. C'est évident que je me porte mieux.
Sauvage, mais proche.
Oui, ben proche. La proximité, c'est quoi? C'est la connaissance que j'en ai. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je peux marcher, que je ne peux pas nommer, que je ne connais pas. J'essaie d'en connaître le maximum. Mais c'est la connaissance. Donc la connaissance, c'est une transmission depuis la préhistoire. On cultive cette connaissance. Et parce que nos ancêtres, ils en savaient sûrement beaucoup plus que nous sur cette prédation perpétuelle du milieu naturel. C'est sûr. Moi, je vois dans des pays, en Australie par exemple, j'ai un ami qui revient d'Australie, ils ont une connaissance du milieu, des plantes, etc. Et témoigner de toute la magie de cette chose-là par des signes. Parce que là-dedans, il faut ajouter l'art à tout ça. Et tout ça, ça se tient. L'homme, il est comme ça. Il est à la fois prédateur et artiste. Et de sa prédation, il a un tel goût de la vie qu'il va essayer de communiquer de la vie à ce qui est inerte. Ça, c'est la création. C'est l'objet, c'est le signe, c'est l'œuvre. Et la culture est faite de ça, de cette tentative perpétuelle de récupérer la nature au profit de l'homme, c'est-à-dire de son imagination, qui altère cette nature. Mais cette altération, elle est fascinante aussi. Donc on est fasciné par toutes les œuvres qu'on a créées, qui étaient des simulacres de vie. Et le problème, c'est comme on sait qu'on peut le faire, c'est un sentiment de puissance. Tu ne peux pas refaire la nature, mais tu peux faire le simulacre de nature. Et ce sentiment artistique de puissance, eh ben, il finit par détériorer tout. Si tu te mets à cultiver que ça, sans le respect, justement, de la souche initiale d'émotion qu'est la nature. Si tu préfères le simulacre à la réalité, mais c'est Platon qui a dit ça. Si tu préfères le simulacre à la vérité, tu te perds. Et c'est ce qu'on fait. On est en train de préférer le simulacre de toutes la qualité de tout.
Mais pourquoi? Pour cette volonté du moindre effort?
Je crois que c'est le mythe de la puissance virile. Voilà, on a les bourses bien pleines. Et donc on accumule. On accumule des biens qui sont produits de l'altération de la nature.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent plus riche avec des simulacres, même s'il y a une grande quantité de simulacres,
eh ben, qu'avec... Oui, ce qui fait qu'on est plus riche, c'est qu'on a le sentiment qu'on peut multiplier. On a le pouvoir de création, pas de créature, de création. Et c'est le grand dilemme entre créature et création. Et l'homme, comme il ne peut pas indéfiniment multiplier la créature, il multiplie la création.
Mais par exemple, la greffe.
Oui.
La greffe, c'est la culture.
La greffe, c'est le consentement, effectivement, à l'altération de la nature par la culture.
Mais c'est une altération qui produit de la vie.
Ben oui, on peut avoir une modération dans ce rapport-là, heureusement. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'il y a des pépiniéristes qui font, tu vois, la vigne, c'est une industrie incroyable. Alors, finalement, il y a des raisins de la vigne partout. Mais c'est un problème. On hypothèque la diversité du milieu par la multiplication d'une seule espèce. En plus, si tu mets des désherbants, tu ne vas avoir que ça. Alors, c'est pareil pour les champs de blé. Donc, on stérilise par le goût de la puissance que donne la multiplication. Et ça, c'est le vice fondamental de notre humanité. Au lieu d'aimer la singularité, dans ce qu'elle a d'isolé ou d'isolant, on lui préfère le multiple. Et on stéréotype. Alors imagine maintenant avec l'OGM, on va avoir des cultures incroyables. Et comme ça va être rentable, les gens ne vont cultiver que ça. Donc ça va tuer toute la diversité de toutes ces petites plantes, de tout ce que tu as autour. Et des animaux qui se nourrissent de ça, etc. C'est une catastrophe. Ce goût n'est qu'est lié à un sentiment de puissance. C'est ça qui est fâcheux. C'est que ce sentiment, eh ben, il flatte l'individu, se sentir puissant. Voilà, c'est ça. Et cette puissance, moi, je trouve qu'elle est liée à un comportement viril. Parce que la femme, avec une nuit d'amour, elle va porter pendant 9 mois pour faire un enfant, puis après des années pour allaiter, etc. Tandis que l'homme, pendant ce temps-là, il peut ensemencer des milliers d'enfants avec une nuit d'amour. Et nous, on a trouvé le génie de ça. Une machine pour dissocier les spermatozoïdes. Avec un taureau, tu insémines je ne sais pas combien de vaches. On a une seule saillie. Parce qu'on a trouvé... Alors tu vois le goût du multiple jusqu'où il va. Jusqu'à rechercher l'instrument qui va permettre cette multiplication. Et tu l'as dans tous les domaines. Maintenant tu fécondes artificiellement les œufs des poissons, les dindes. Tu as une insémination artificielle des dindes, les poules, bon, tout. Dans tous les domaines, on a le génie du multiple fondé sur... Comment dire, l'admiration de la puissance, à l'origine de la puissance virile. Pas seulement de l'homme, de tous les mâles, si tu veux. Il sème à tous les vents, quoi.
Il me semble qu'il y a aussi un rapport particulier à la mort.
Pour moi, la mort la plus terrible, justement, c'est cette prolifération qui détruit la singularité. C'est ça, la mort. La mort, actuellement, la planète, elle est singulière par rapport à toutes les autres. Et on est en train d'altérer son unité, sa beauté, sa cohérence. Ça, pour moi, c'est la menace de mort. Nous, qu'on meurt, c'est pas grave. On est remplacés. Moi, j'ai fait des enfants, etc. Bon, la mort, c'est une phase de l'existence, la mort. C'est une phase de l'existence. On ne peut pas dissocier la mort de la vie.
Non, mais justement, c'est pas la mort parce qu'il y a une descendance. Mais je reviens à cette histoire de noyau, de pépin, enfin de végétal qui ne se reproduit plus. Ça, c'est une mort absolue.
Oui. Mais
ou d'animaux d'ailleurs.
Attends. Mais la culture vient compenser. C'est que la plante dont tu parles, on l'a greffée sur une plante sauvage qui se multiplie. Sans quoi, comment tu veux faire? C'est foutu. Si tu n'as pas de pépin, tu ne peux pas multiplier. Et donc multiplier, c'est quoi? C'est justement revenir à l'identité sauvage, qui est le porte-greffe, et qui a des racines, et qui lui se multiplie, ou par bouture ou par graine, et c'est celui-là que tu vas greffer. Et tu vas le greffer avec un produit stérile.
Donc c'est une image formidable de notre société. On utilise le sauvage
absolument.
Pour créer de la culture.
Mais tant qu'on est vivant, on est condamné à gérer ce qu'il y a de sauvage en nous. Ben oui, quand tu fais l'amour, je m'excuse, c'est sauvage. Et tu fais des enfants, un enfant que tu fais, si tout d'un coup la mère n'est pas là et qu'il est élevé par une louve, il fait un enfant loup. C'est le même, il a les mêmes chromosomes que celui qui aurait été autrement et qui peut devenir un PDG dans notre société. C'est le même, et ça, on n'a pas l'impression que c'est vrai, mais c'est évident, il y a eu des enfants loups et des enfants gazelles et autres. Et dès l'instant qu'on est éduqué par ce qu'on mange, parce qu'on est éduqué que pas que par les livres, parce qu'on respire, ce qu'on voit, ce qu'on mange, c'est ça l'éducation. Et quand on est éduqué par une mère louve, on devient presque un loup. Moi, je suis persuadé de ça. Moi, je ne sais pas comment j'ai été élevé. Je pense, je vais te dire une chose.
Par des abeilles.
Tu vois, avec Tintin, j'ai imité la perdrix. J'ai un culte de la perdrix. Pourquoi j'ai un culte de la perdrix ? Va savoir. Ben, je pense que mon père, il a dû nourrir ma mère avec des perdrix pendant qu'elle était enceinte. Et qu'il est passé quelque chose. Ben, l'éducation, ça va jusque-là. Ça va jusqu'à ce que la mère a mangé quand elle porte son enfant. De même qu'on a l'impression que l'enfant a été bercé par les chants de la mère, etc., que le fœtus, il reçoit tout. Il reçoit tout, paraît-il, même la musique et le rythme. Mais à plus forte raison, ce qu'a mangé la mère, puisqu'il en est fait. Il en est fait de ce qu'elle a mangé. Donc il y a des traces. Enfin, moi, peut-être je dis des conneries, là. Mais j'ai l'impression qu'on est fait comme ça.
Cette histoire de rythme, justement, Maurice.
Oui. Ah oui, mais bien sûr, le rythme, il est déterminant. Alors je m'excuse, je reviens toujours aux sources. La source, c'est l'accouplement. Le spermatozoïde, il a un rythme. Il a un flagelle. Il a un rythme. Tout est rythme. Dès la naissance, il y a le rythme. Et il est plus ou moins vigoureux. Il y en a un qui, peut-être, qui navigue mieux qu'un autre et qui va féconder, je ne sais pas. Mais tout est rythme. Tout est rythme dès le départ. Et c'est le rythme qui est fondateur de l'énergie. De l'énergie.
Et de la singularité de chacun.
Et de la singularité, parce que le rythme, il est complexe, c'est pas seulement des lignes, hein, ou des percussions, ou une organisation du temps. En principe, le rythme, pour beaucoup de gens, c'est ça, l'organisation du temps par des percussions. Bon. Mais le rythme, il est dans le rapport entre deux couleurs. Tu as un rouge avec un vert, bon, c'est un accord violent, mais tu en as d'autres autour. Et le peintre, il organise des rythmes, à la fois des surfaces ajustées les unes aux autres et différentes, des couleurs différentes et des lignes différentes. Et il y a tout ça dans le rythme. Et nous sommes ça. Toi aussi, tu es un squelette. Ton squelette, il obéit à un certain rythme, et la peau, et tout, tout, tout. Et ça va façonner une certaine séduction, ce que j'appelle la singularité. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un parmi des milliers d'autres, qui va être sensible à cette singularité et qui va t'approcher. Et voilà. Et donc, toute notre vie est conditionnée par cette singularité qui pourrait être réduite à une forme schématique, c'est le contraire. Le vivant, il n'est pas schématique. Schématique, c'est dans la création de l'homme. Mais dans l'individu, il est pétri de singularité et de multiples. Une expression multiple et singulière.
C'est vrai aussi pour les œufs des oiseaux ?
Ah oui, évidemment. Tu as vu des œufs. Hier, j'ai montré des œufs. Ils ont des formes différentes et des couleurs différentes. Et ils sont tachetés. Un semis qui paraît totalement anarchique, et il n'est pas anarchique. Il est libre. Il paraît aléatoire. Et il est organisé. Et il est significatif. Il est signifiant.
En fait, il est la signature.
À la fois par la
il
couleur.
Est une signature.
Oui, c'est une signature. À la fois par la couleur, par la disposition des taches, par la courbure même. Parce que les œufs, il y en a qui sont très longs, il y en a qui sont parfaitement ronds, il y en a de toutes sortes. Et la coquille de l'œuf, j'allais dire l'écorce, a des couleurs et qui auto-fascine l'espèce. L'espèce, elle reconnaît son nid, mais pas seulement à la manière dont elle l'a fabriqué, à l'endroit où se trouve le nid, le choix de l'arbre, etc., le serin du cyprès, ben, il fait ses nids dans le cyprès. Il ne va pas les faire dans un figuier. Tu ne verras jamais un nid de serin dans un figuier. C'est le serin du cyprès. Donc il a un habitat, et il y a des correspondances. De même que la tourterelle des bois, là je parle à Tintin. La tourterelle des bois, quand elle est posée dans un pin d'Alep, tu ne la vois pas parce qu'elle ressemble à la pomme de pin. Elle a les écailles de la pomme de pin dans ses plumes. Et quand tu approches, elle ne bouge plus. Et tu regardes et tu crois que c'est une pomme de pin, mais c'est une tourterelle. Et bien voilà. Et or, je crois que cette tourterelle, elle mange les petites semences du pin d'Alep. Donc il y a une affinité. Il y a chez les animaux sauvages une affinité extraordinaire entre ce qu'ils mangent et ce qu'ils sont. La tourterelle, elle aime beaucoup la graine du pourpier. Alors, si on veut trouver des tourterelles, dans le pourpier qui rampe, il y a des toutes petites graines minuscules. Les pigeons, ils n'iront pas la manger, c'est la tourterelle qui les mange. Et qui va lui donner un goût particulier. Et le chasseur, qui est un bec fin à l'origine, il va chasser à une certaine saison la grive ou la tourterelle pour retrouver cette affinité qu'il y avait entre la bête et son milieu. Et ça, c'est le raffinement de la cuisine, même à notre époque.
Le raffinement de la cuisine.
Ah ben écoute, le cochon, il aime le chou. Bon, la choucroute avec le cochon, tout le monde connaît. Mais il y a plein de choses comme ça. Et le canard au navet, alors on me dit, tu n'as jamais vu un canard manger des navets? Et j'ai dit, oui, mais vous n'avez jamais élevé de canard. Alors, il me dit, pourquoi tu dis ça? Parce que si tu plantes des navets dans un potager et que tu as un canard, il ne poussera pas. Le canard vient manger les feuilles de navet, il te le rase jusqu'au sol. Évidemment, il ne gratte pas comme la poule, il ne va pas sortir la racine, mais il mangera toutes les feuilles. Ce qui veut dire qu'on pourrait faire un canard avec un fond, de la feuille cuite de jeunes navets, et ce sera extraordinaire. Et avec le navet aussi. Voilà, mais il y a plein de choses comme ça. Le pigeon, petit pois, le pigeon, il adore les petits pois. Moi, je leur donne des petits pois secs, mes pigeons. Eh bien, un pigeon petit pois, tout le monde sait que c'est bon, ça va, et ça passe bien. Ça passe bien, c'est quoi? Mais c'est une relation d'ordre écologique entre le milieu et la bête qui se nourrit de ce milieu. Hier, on a mangé du sanglier. Mais sanglier avec des châtaignes, c'est magnifique. Et le sanglier, il a mes châtaignes. Et il y a plein de choses comme ça. Sans arrêt. Alors moi, ça m'intéresse, voilà, ce rapport de gourmandise. Moi, j'ai la gourmandise, j'oserais dire de l'écologie, pour envoyer un mot à la mode, mais j'ai la gourmandise de cette affinité entre la vie et le milieu dans lequel, le milieu qui lui permet d'être la vie, de s'accomplir. C'est ce rapport-là. Et alors, dans un langage moderne, on dit entre l'écotype et l'écosystème, mais c'est ça qui m'intéresse. Et ça, ça me passionne. Et je me rends compte que c'est la santé en même temps, ça. Quand tu rentres dans ce rapport et que tu t'en nourris, eh bien tu es comme les tourneaux qui va manger des olives, ou tu vas chercher la nourriture qui te convient. Et ça, ça donne une sorte d'équilibre que j'appelle la santé. Et moi, j'en ai la preuve, puisque j'étais, Dieu sait, des drogues qu'on m'a infusées avec mon accident et tout ça. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre, je suis revenu à ma maison et je reviens à ce milieu, bon, mais je l'ai déjà dit. Et quand je m'en nourris, je redeviens en équilibre, quoi.
Mais par contre, Maurice Chaudière, rompre cet équilibre, c'est l'histoire de Dédale et Icare.
Ah ah. Oh oui, alors là, tu touches à un sujet avec lequel je ne peux pas me départir de ce mythe-là. Il me concerne. Peut-être parce que Dédale, il fait des bronzes, et moi j'aime bien faire des bronzes. Et puis, il est le père des simulacres. Donc il a le don d'observation, une observation inspirée, c'est-à-dire qu'il regarde et il transpose. C'est-à-dire qu'il est capable de création. Et on dirait qu'il préfère la création à la créature. La preuve, c'est que son fils en meurt. Il a une création pour le faire s'envoler, c'est les ailes. Donc c'est l'astronautique, hein, c'est tout ça. Mais le fils, il en crève. Et donc ce rapport-là, ce mythe-là m'intéresse au plus haut point, parce que moi je trouve que Dédale, c'est le fauteur de troubles, enfin le personnage mythique, le comportement de Dédale, c'est le fauteur de troubles de la société actuelle. Il est capable de tous les artifices, tous. Il fait des robots en bronze, il fait tout pour Minos, qui incarne lui le pouvoir, le despote, etc. Et lui, il a le génie de la création. Mais en même temps, il aliène tout le monde, parce que tous les gens qui lui demandent secours, tous, il les aliène parfaitement. Chaque fois qu'il répond à ce qu'on demande, on est aliéné par la réponse. Pasiphaël lui dit « je veux faire l'amour avec un taureau ». D'accord. Tout de suite, il lui fait une vache artificielle, mon manque de peau, elle fait un minotaure. Après, il va falloir le cacher, etc. Mais c'est tout comme ça. Dédale, Icare lui dit « je veux des ailes pour m'envoler ». Il lui fait des ailes, il se tue. Et c'est tout comme ça. Tout. Ariane lui dit « ah, Thésée, je le veux, je ne veux pas qu'il meure, que le minotaure le mange dans le labyrinthe ». Alors, il répond tout de suite, lui, il a la réponse spontanée. Il lui donne le fil d'Ariane. Et avec ça, elle attache la main de Thésée qui rentre, il va tuer le minotaure et il ressort. Il va enlever Ariane. Manque de peau, il la plaque. Il la laisse. Et il lui prend sa jeune sœur, Phèdre. Et après, il va avoir des problèmes avec Phèdre. C'est sans arrêt, sans arrêt. Chaque fois que Dédale répond à la demande, c'est apparemment la plus grande générosité, et cette générosité, elle est suspecte. Chaque fois qu'on a la réponse à la demande, on est aliéné par la réponse. C'est un mythe extraordinaire. Et nous, on attend de la société industrielle qu'elle satisfasse tous nos fantasmes, tous nos besoins. Mais elle nous aliène totalement.
Attention, fantasme ou besoin ?
Le besoin est déterminé par le fantasme, je pense. On a une sorte de rêve d'absolu de qualité, et on imagine la qualité, mais elle est, je pense, d'ordre du rêve, quoi. Le rêve, c'est vouloir ramener le rêve à la réalité, tout le temps. Donc le rêve, c'est un peu le fantasme, si tu veux, mais essayer d'en tirer parti pour en jouir matériellement. Voilà. Moi, je pense qu'on est là-dedans. Et le grand problème, le grand dilemme, c'est de préférer la création à la créature. Et notre société actuelle, elle manifeste ça. C'est qu'elle s'engage dans un processus de puissance par la création. Et ça se fait aux dépens de la créature.
Dédale, qu'est-ce qu'il en tire, lui, de ça ?
lui, il n'en tire rien. C'est la solitude parfaite. Il a la passion de la solitude, parce qu'elle lui donne le temps et le moyen d'activer son génie. Donc il y a un rapport de solitude entre la création et la créature, et lui, il y a ce no man's land, cet écart qui lui permet de s'adonner à la création, et je dirais de préférer la création à la créature. Et c'est ce qui fait sa solitude. Il perd son fils, il est seul. Et il le perd à travers, ben, justement, la création. L'aile, c'est une création. Et donc, c'est pour moi un comportement extraordinaire que les anciens avaient identifié d'une certaine façon. Parce que le mythe, c'est ça. Ça nous apprend à réfléchir, le mythe. Ça nous donne. Mais c'est des générations qui l'ont peaufiné. Le mythe, ça évolue tout le temps. Mais il n'est pas arrêté. D'ailleurs, ce qui me plaît dans le mythe du Dédale, c'est l'activité actuelle, justement, ce que je reconnais. Donc, le mythe, il n'est pas mort. On est dedans. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la mythologie, c'est le mythe. Parce qu'il nous concerne. Enfin, il y en a qui nous concernent totalement, quoi.
Celui-là, en tout cas.
Celui-là. On est en plein dans les artifices de toutes sortes. Les voitures qui veulent ressembler à des dithyques qui glissent sur l'eau, etc. Tous les rebords, sans arrêt. On a, les libellules qui sont des nefs aériennes extraordinaires. Nos avions, ils voudraient ressembler à des libellules. Ils y ressemblent de plus en plus, d'ailleurs, d'une certaine façon, par rapport aux premiers engins. Et voilà, donc on a sans arrêt une sorte de référence à l'absolu de qualité qu'est la nature.
Et d'ailleurs, c'est une discipline qui se développe, ce qu'on appelle le biomimétisme, fait d'observer et de reproduire, par exemple, la façon dont les papillons ont eu cette poussière sur les ailes.
Oui.
Les carapaces aussi, les insectes.
On a beau avoir la vanité de la création, qui est notre fait, on a la nostalgie d'un état antérieur qui nous paraît supérieur, finalement. On n'ose pas. Et quand tu greffes, c'est ça que tu fais. Tu imposes la création arboricole, la transformation des variétés. Et oui, mais à la longue, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a plus de pépins. Donc il faut greffer sur la plante sauvage. Donc on revient toujours à l'ordre de la nature. Et on l'épuise.
À nouveau, voilà, c'est ça. À nouveau pour l'épuiser.
Et on l'épuise par abus, par spéculation. Spéculation au sens primitif du terme. On spécule sur la qualité et en la multipliant. Et par le moyen de la création. C'est la création qui altère la créature. Voilà, c'est le grand truc, ça.
Et pourtant, on ne peut pas s'en passer.
Et non. On ne peut pas s'en passer parce que l'homme, c'est pas une bête. Il est une bête et il est cultivé. Donc, il est le fruit des deux.
Hier, vous parliez de la licorne, Maurice Chaudière.
Et bien voilà. Et voilà. Alors les hommes ont imaginé justement cette chose irréelle qui serait entre les deux, qui serait la nature, alors qu'elle est aussi une création, puisqu'on l'imagine, elle n'existe pas. On l'imagine de toutes pièces, donc c'est bien une création du fantasme et de l'imagination de l'homme. Et elle n'est pas réelle, et cependant on la figure. Tu imagines le pari incroyable. Non seulement on l'a figurée, mais à une époque on y a cru. On y croit encore maintenant, puisqu'il paraît qu'on fait encore un commerce de cornes de rhinocéros en Chine. Parce que la licorne avait toutes les puissances, et en particulier la puissance virile. Donc si on veut augmenter la puissance virile, un aphrodisiaque, c'est de la poudre de cornes de licorne, de rhinocéros. Après qu'on ait utilisé le narval. Voilà. On est toujours dans ce mythe. Hein. En vouloir le maximum de puissance.
Mais justement, vous l'utilisiez, ce mythe, pour décrire la façon dont on détruit ce qu'on désire le plus, la nature. Vous parliez de ces chasses qu'on voit sur les tapisseries.
Et oui, parce qu'on est complètement fasciné par cette pureté originelle qui est la nature. Et donc, on l'a figurée par une licorne, et alors elle a une réputation extraordinaire, elle purifie l'eau, elle a la puissance, on peut pas l'atteindre, on peut pas. C'est un absolu de qualité et d'intégrité. Mais l'homme, là, on voit bien la dimension de l'homme par rapport à la bête. Eh bien, il ne peut pas s'empêcher de vouloir dominer cette chose-là, se l'approprier. Mais quand elle t'échappe de partout, qu'est-ce qui te reste comme situation? C'est de la tuer. Et voilà, c'est ce qu'on fait. On a un tel goût de la nature que pour finalement s'en emparer, en vivre, la dominer, on la tue. Et les OGM, c'est ça. On tue une certaine chose, et voilà, pour s'en emparer, et soi-disant pour protéger l'humanité, pour protéger le côté animal de notre espèce, soi-disant. Mais en fait, c'est une déviation. Ce qu'on veut, c'est plutôt affirmer la puissance, la puissance d'invention, la puissance d'intervention, la puissance culturelle. Et ben moi, je trouve qu'on est là, on a le cul entre deux chaises, là. On est vraiment...
Alors, quelle chaise choisir ?
Et moi, d'instinct, j'ai fait des tas de trucs, c'est pas du tout intelligent. Pas du tout, ma démarche. Je dois être très proche de la bête. J'ai un goût tempestif de la nature. Parce que la culture de nos jours, elle est confinée dans les livres, si tu veux, ou dans les émissions, tout ce que tu veux. Mais en fait, on est fait de ce qu'on consomme. Mais on ne consomme pas seulement par la lecture. On consomme par le nez, par le toucher. On est rempli de la perception de nos sens. Alors moi, je dois être très sensitif, sinon très sensuel. Et donc, j'ai besoin de cette approche. J'ai besoin de... Je suis à l'affût des odeurs qui passent, à l'affût des saveurs de toutes ces plantes qui sont autour de moi, et les distinguer par leur aspect. Tout y est. La couleur, l'agressivité des plantes qui ont des épines, qui ont des saveurs. Et il y a des poisons en plus dans tout ça. Et bien, ça m'attire. Donc j'ai mâché souvent des poisons, hein. Je les ai recrachés parce que ma langue m'a averti. Voilà. Et voilà, moi je suis dans cette approche continue et je n'ai pas fait exprès. Je suis comme ça depuis la naissance, j'ai l'impression.
Oui, mais vous ne refusez pas non plus la culture.
Et non, je ne peux pas. J'en suis fait. Comment pourrais-je te parler si on ne m'avait pas appris à parler le français ? Je suis fait. On ne peut pas dissocier. Si tu le dissocies... tu reviens à la bête, tu peux pas. L'homme, il est, ce qui fait l'homme par rapport au reste de l'univers, c'est cet accord, j'oserais dire acceptation, je ne sais pas. Il n'a même pas accepté, il a subi ce comportement. C'est qu'il est capable, l'homme, d'imiter. Je crois que l'homme, il a une espèce de conscience très vague de son infirmité. Il est incomplet par rapport à la bête. Et donc, il veut compléter. Et pour compléter, comme il n'y arrive pas tout seul, il tue la bête pour lui prendre ses cornes, pour lui prendre sa puissance, pour lui prendre... Et sans arrêt, il tue l'homme, c'est un tueur. Il tue les plantes, il tue tout, pour augmenter, soi-disant, sa vitalité. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se sent comme infirme, comme faible. Alors moi, je me sens très faible. Et quand j'en parle, les gens ont l'impression, au contraire, de l'inverse, d'une sorte de force. Mais pourtant, ma force, c'est la connaissance de ma faiblesse. Je pense que c'est ça. Si j'ai une force, je ne suis pas sûr. Disons, un intérêt que je suscite, puisque ça arrive, puisqu'on me demande d'en parler, c'est ça. C'est que moi, je sais que je suis faible, et particulièrement, par rapport à mes copains de classe et tout ça, je sais que j'ai toujours été... Mais je cours vite. je courais, maintenant je risque plus. I can't look at the rocket launch. Trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Et voilà, Terre à Terre, c'est terminé pour aujourd'hui. Joyeux Noël à vous tous. Vous avez donc entendu Francesca Desideri, Tintin Marcon et Maurice Chaudière. Vous pouvez réécouter cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous et joyeux Noël. I can't stand in line at the store. The mean little people are such a bore.